Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h44, c'est le petit déjeuner politique de Sarah El-Haïry, qui est secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement.
Bonjour Sarah El-Haïry.
Bonjour.
Avant de parler du confinement, votre réaction sur l'intervention hier soir des forces de l'ordre pour déloger des migrants qui voulaient s'installer place de la République à Paris, il y a des images assez fortes. Est-ce que vous êtes choquée ?
Vous savez, nous sommes dans un pays où c'est un état de droit. Et évidemment, je comprends la décision de l'évacuation. Et en même temps, je suis tout à fait dans la suite logique des propos de Gérald Darmanin. Il faut une mise en lumière. Et le ministre de l'Intérieur a évidemment diligenté une enquête pour comprendre. Et je crois que les informations nous arriveront au plus tard à midi pour comprendre, pour illustrer, parce que les images, effectivement,
vous-même, elles sont bousculantes. Vous-même, vous avez été choquée. Oui, elles sont choquantes, bousculantes.
Alors, il faut comprendre, simplement. Ouais. Par contre, l'état de droit, ça protège tout le monde.
Ouais.
Ça protège ceux qui font l'action, ouais. Et également, finalement, ceux qui doivent la respecter, ouais. Tout simplement.
Et sur l'action, vous estimez qu'il y a eu de la provocation avec cette installation de camps de migrants Place de la République ?
Je crois que dans le moment où on est ce matin, il est inutile de rajouter du flou au flou. On va avoir suffisamment d'informations d'ici midi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a la décision de l'évacuation et son exécution. Et on aura toutes les informations nécessaires dans les heures qui arrivent.
Oui, quoi qu'il en soit, c'est un vrai sujet de préoccupation, les camps de migrants, notamment au nord de la capitale. Un peu partout en France et beaucoup au nord de Paris. Hein.
Bien sûr, c'est une préoccupation, mais pour deux raisons. La première, c'est évidemment... comment on accompagne des personnes qui sont en grande précarité, comment on les met à l'abri. Nous sommes, on est à la veille de l'hiver. Mmh. Et évidemment, il faut accompagner l'ensemble des personnes qui en ont besoin. Nous sommes la France et c'est notre tradition et c'est notre devoir. Et en même temps, il y a des règles, il y a un état de droit et ces règles,
vous
elles sont faites pour être respectées.
Vous voulez dire que certains instrumentalisent un petit peu ça, c'est certains partis politiques, certaines associations.
Ce qui est certain, c'est que face à la misère, face à la précarité d'une partie de la population, d'où qu'elle vienne, la réponse de notre pays doit être la protection. Ensuite, chacun a sa conscience pour lui.
Ouais. Sarah El-Haïry, Emmanuel Macron s'enferme ce matin avec son conseil de défense pour trancher avant les annonces de ce soir. Quelle est la tendance ? On se dirige donc vers un assouplissement progressif des mesures sanitaires, c'est ça ?
Il y a... en fait, le cap n'a pas changé. Ça, c'est certain. C'est... on teste, on trace, on isole. Ça, c'est le cap. Le cap, il reste le même. Maintenant, on l'a dit depuis le début, on pilote d'une certaine manière avec des paliers, avec l'évolution de la courbe, avec l'évolution de la circulation du virus. Aujourd'hui, ce qui nous arrive potentiellement, c'est trois temps.
Ouais.
Trois temps, un temps d'allègement et puis une adaptation avec... surtout, en fait, c'est en parallèle de cette courbe. C'est vraiment ça, c'est le pilotage. Ce qui est certain, c'est que oui, nous continuerons à vivre avec le virus tant que nous n'avons pas de vaccin. Et oui, il faut adapter nos règles. Et une règle, c'est fait, certes, pour être acceptée. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est jamais pour embêter.
Parfois, ça peut sembler incohérent. Ça, vous le comprenez, les petits commerces notamment, mais aussi d'autres professions qui ne peuvent plus travailler, qui se disent, bon, on est en train de nous tuer, entre guillemets.
La première des cohérences, le premier des objectifs, c'est la protection sanitaire.
Ouais.
La guerre, elle est d'abord sanitaire. Et donc, c'est jamais agréable de dire à quelqu'un, tu ouvres ou tu n'ouvres pas. Mais une règle, de fait, elle exclut une partie. Et la priorité, mais vraiment de toute l'équipe gouvernementale, c'est de protéger la santé des Français. Et surtout, d'accepter de s'adapter.
Ouais.
C'est ce que nous faisons au quotidien, en fonction de l'évolution de cette courbe, du nombre de contaminations, de la situation dans nos hôpitaux. Et ça, c'est toute une équipe gouvernementale qui est au travail.
Oui, et Sarah El-Haïry, vous avez évoqué le dépistage. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin, justement, aussi, dans les tests, avoir une grande politique de dépistage ? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu chaotique avant les fêtes de fin d'année.
Je vous assure, il y a la perception et la préparation. Et aujourd'hui, plus que jamais, les tests sont diffusés, ils sont accessibles. Nous avons les évolutions, en plus les nouvelles générations de tests qui sont beaucoup plus rapides. On a des tests au sein des établissements scolaires. Nous avons des tests aujourd'hui très largement diffusés. La priorité, et je crois vraiment pour sortir de cette période de crise qui nous bouscule tous, enfin,
ouais.
franchement, c'est le quotidien. Il faut que chacun aide à sortir de cette crise sanitaire. Et pour y aider, on peut tous être acteurs. C'est évidemment les gestes barrières, c'est évidemment la distanciation sociale, c'est évidemment la protection qu'on fait pour soi et pour les autres. Et si on s'y met tous, comme nous le faisons, oui, c'est long et oui, ça demande énormément d'efforts, alors on s'en sortira.
Oui, Sarah El-Haïry, vous vous occupez de la jeunesse et de l'engagement, secrétaire d'État. Il y a bien une catégorie de la population qui est aussi un peu victime, entre guillemets, de cette crise sanitaire, indépendamment de la maladie, ce sont les jeunes. Ils ont besoin de perspectives aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de cours à l'université, il n'y a plus de soirées en fait, entre amis, ça vous le comprenez. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre justement à ces jeunes, quoi?
Moi, ces jeunes, je leur tire mon chapeau. En fait, moi, je suis hyper fière de notre jeunesse parce que, en fait, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites ils sont victimes. Notre pays entier, quel que soit l'âge, est bousculé. Et bousculé, ça nous demande des évolutions, des efforts. Par contre, pour nos jeunes, eh bien, eux, ils se mobilisent, en fait, face à cette crise. Moi, je les ai vus à Rouen, je les ai vus à Guéret, je les ai vus trouver des solutions à cette crise. C'est cette génération, c'est une génération solidaire, c'est une génération, en fait, qui
trouver des solutions comment alors, c'est ça?
Ah, mais trouver des solutions en s'appuyant sur ce que nous faisons. Plus que jamais, oui. Le gouvernement est au rendez-vous de notre jeunesse. C'est 6 milliards et demi, c'est plus de 6 milliards et demi, en fait c'est 6,7 milliards avec le plan Un Jeune, Une Solution, mais c'est pas que ça. Fondamentalement, oui, c'est dur parce que c'est un âge où on a envie de faire beaucoup de choses, où c'est un âge où on a plein d'énergie.
On a envie de sortir, on a envie de lancer en fait des projets. Et là, on est confiné, on ne peut pas sortir, ou moins en tout cas.
Oui, mais on fait plein d'autres choses. Et on fait plein d'autres choses comment ? On réinvente notre manière d'aider les grands-parents. On invente des manières d'aider le copain de la cité universitaire qui lui effectivement est en galère. On accompagne ceux qui ne savent pas utiliser un ordinateur alors que c'est le camarade d'en dessous. Eh bien, c'est ça cette génération solidaire. C'est cette génération qui face à une difficulté qui les bouscule, comme toutes les générations dans notre pays, eux, plus peut-être un tout petit peu, parce que c'est l'âge où on bouillonne, eh bien, eux, ils trouvent des solutions, ils nous challengent, et en réalité,
vous
moi, j'ai envie de dire...
Que le fait que ce soit une génération sacrifiée,
mais
comme le disent certains.
Absolument, oui. Ce n'est pas une génération sacrifiée, parce qu'une génération sacrifiée, c'est une génération morte qui ne fait plus rien, et quand vous avez 6,5 milliards d'euros qui est injecté rien que pour eux, parce que nous avons confiance en eux, parce qu'ils ont en eux la capacité, en fait, cette génération, c'est la génération des solutions. Oui. C'est cette génération qui va nous aider à passer ce cap de cette crise sanitaire. Et non, elle n'est pas sacrifiée. Oui. Au contraire.
Oui, alors Sarah El-Haïry, il y a quand même aussi un autre défi, non seulement cette crise sanitaire, mais également les valeurs en fait, de la République. Vous faites un tour de France, il y a eu une rencontre qui a fait un petit peu parler à Poitiers le mois dernier, vous étiez justement face à ces jeunes, et certains ne se reconnaissent pas forcément dans les valeurs républicaines et de la laïcité. Quel discours vous pouvez leur faire entendre, sachant qu'ils ont du mal quand même à vous écouter parfois?
Effectivement, notre jeunesse, elle est différente d'un territoire à l'autre, d'un âge à l'autre. Et plus que jamais, nous avons le devoir de les protéger. Comment on fait ça? On les protège d'abord en vérifiant, en accompagnant ceux qui les encadrent. Ça, c'est la première étape. On les protège également et on leur donne les outils d'être des acteurs de notre République. Ça va vous paraître tout simple, mais en posant des mots clairs sur des principes clairs, des principes qui nous régissent, c'est les principes républicains. On réexplique à l'école et en dehors de l'école et on fait que les maillons de la chaîne de transmission portent le même discours. Ce discours, c'est lequel? Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une république qui protège. Les valeurs républicaines, c'est ce qui te permet de vivre ensemble. C'est ce qui te permet, en réalité, eh bien, de croire ou de ne pas croire si on parle de la laïcité. De pouvoir pratiquer ta foi avec toute la protection. Et en même temps, eh bien, de protéger celui qui ne croit pas. Oui. Et c'est ce qui permet à notre pays eh bien, de vivre en concorde.
Oui, mais tous les jeunes ne l'entendent pas comme ça. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté en fait vous-même. Donc, est-ce que c'est encore rattrapable, ça?
Totalement. C'est totalement rattrapable et c'est même notre devoir. C'est notre devoir. Et comment on le fait? On le fait en renforçant... Parce que la première étape, c'est l'école. En renforçant l'éducation civique et morale à l'école. En renforçant la formation et le soutien des enseignants sur les questions des valeurs de la République. En levant le tabou. En arrêtant de mettre sous le tapis quand il y a des incompréhensions. En arrêtant
le relativisme. Ce qu'on a beaucoup fait là, ces dernières années et qu'on fait encore, quoi, visiblement.
Et c'est pour ça qu'il faut le regarder en face. Et le regarder en face, c'est avoir finalement confiance en l'avenir. Oui. C'est avoir confiance dans notre capacité à renforcer un vivre ensemble. Parce que, tu sais, la République et l'école, c'est quoi en fond? Dans le fond. Oui. C'est ce qui permet de t'émanciper. C'est ce qui te permet de ne pas être condamné à vivre simplement en fonction de la famille dans laquelle tu es né. Oui. C'est ça le rêve français.
Alors, dans le projet de loi confortant les principes républicains, qui sera présenté dans quelques jours, certaines associations vont être visées. Parce que certaines sont vraiment noyautées par le communautarisme?
Ah mais il faut pas... L'angélisme, il n'a jamais protégé personne. Hein. Donc oui, il y a des problèmes aujourd'hui dans notre pays. Même si 99% des associations vont dans le bon sens, et évidemment c'est des solutions parce que c'est elles qui animent le lien social sur nos territoires, c'est elles qui accompagnent les plus précaires, c'est elles qui font des très belles choses comme Devoir fait. Elles font partie de ces acteurs qui émancipent. Il y en a d'autres qui, effectivement, eh bien, sont dans un relativisme. Ouais. Et moi, ma responsabilité avec le ministre de l'Intérieur, mais également avec Marlène Schiappa, c'est de travailler à ce qu'on réussisse à finalement encadrer le tout. À peut-être demander plus de comptes,
dissolution de certaines, peut-être, il faut aller jusque-là.
Nous avons déjà commencé. Nous avons commencé quand elle déroge aux règles de la République. Je ne vais pas les reciter, mais le Conseil des ministres a évidemment commencé à dissoudre. Mais avant d'arriver à la dissolution, nous avons besoin d'un arsenal législatif plus fort encore, pour être encore plus dans l'action. Mais être dans l'action, ça s'accompagne dès le début. À l'école, le projet républicain avec Jean-Michel Blanquer, entre autres, nos enseignants et les associations qui interviennent pour encadrer nos enfants. Et là, il faut que ce soit le même discours. Pour ça, deux éléments, la formation et l'encadrement. Et de l'autre côté, plus largement pour toutes les associations, c'est un contrat d'engagement républicain.
Oui. Question Sarah El Haïry avec Cécile Dominibus. Cécile.
On le sait, les Français se détournent des urnes. La jeunesse, taux d'abstention 60%. Est-ce qu'il faut rendre le vote obligatoire ?
À titre personnel, je ne me suis jamais interdit l'idée d'un vote obligatoire. Par contre, le pendant, c'est évidemment la prise en considération du vote blanc. Moi, je me souviens, même c'était ici, pendant les grands débats des Gilets jaunes, on se posait cette question de l'abstention. Je pense qu'il ne faut pas se résigner. Tout ce qui permettra de baisser l'abstention, tout ce qui permettra de conforter la confiance dans le fait de s'exprimer dans les urnes et pas ailleurs, eh bien, sera bénéfique. Après, quelle méthodologie, quelles règles, quelles contraintes, je crois que ça s'étudie.
Est-ce qu'il y a un risque pour la démocratie si personne ne vote, forcément ?
Évidemment. Évidemment, les démocraties, c'est quelque chose de fragile. Ça ne tient que par un pacte. Et ce pacte, encore une fois, il ne faut pas considérer que c'est un acquis. Oui, les démocraties sont bousculées. Et elles sont encore plus bousculées dans des périodes où on a une crise sociale, une crise sanitaire, voire une crise économique, parce qu'on remet en question la légitimité même de celui qui a été élu. Et donc, comment on fait pour avoir la plus grande des légitimités et finalement embarquer le plus de monde ? C'est oui, accepter de travailler plus largement dans le cadre de conventions, de plus de citoyenneté. Mais c'est aussi protéger en réalité, la démocratie représentative, celle qui te donne, celle qui, par le suffrage universel, permet, te délègue la prise de décision. Et pour ça, plus le vote est important, plus nos assemblées sont représentatives de la réalité politique de notre pays, plus ce lien de confiance est important. Donc moi, tout ce qui va dans ce sens, tout ce qui va sur la lutte contre l'abstention par le vote obligatoire, par le fait de comptabiliser le vote blanc, par ce qui va à un moment ou un autre permettre des grandes consultations, je crois qu'il faut l'étudier, le stimuler. Je ne me satisferai jamais de voir qu'entre 18 et 25 ans, on est entre 60, voire des fois même 70% en fonction des scrutins d'abstention. C'est finalement accepter que quelqu'un d'autre décide pour toi. C'est réellement ça, en fait.
Merci Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, d'avoir été l'invitée du petit déjeuner ce matin sur Sud Radio. Mais ce n'est pas fini, vous allez rester avec nous parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser, notamment sur ce que vous venez d'aborder, des questions en fait tabou, sans tabou justement, les défis de la jeunesse. Exceptionnellement, vous serez avec nous tout à l'heure de 9h15 à 9h15 et vous posez vos questions 0826 300 300.
Restez avec nous tout de suite, le journal de 8h.